Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et si l'État français devait reverser entre 1 et 5 milliards d'euros pour défaut de tutelle ? Une caisse de retraite est accusée d'avoir minoré les droits de 400 000 auto-entrepreneurs. La Cour de cassation se prononce à ce propos aujourd'hui. Information France Culture que nous vous détaillons dans un instant.
Et puis nous irons ensuite à Jérusalem où débutent dans quelques heures les commémorations. 75 ans après la libération des camps nazis, une quarantaine de chefs d'État sont attendus au mémorial de la Shoah Yad Vashem.
L'Organisation mondiale de la santé repousse à ce jeudi son estimation du risque posé par l'épidémie du coronavirus en Chine. Il y a tué 17 personnes ces derniers jours, principalement à Wuhan. La ville est d'ailleurs placée en quarantaine depuis hier.
D'après le CSA, près de 3/4 des Français écoutent encore la radio au moins 3 fois par semaine. Le média convainc encore, même si les modes d'écoute sont bouleversés par le numérique, vous l'entendrez.
Après ce journal, Frédéric Saïs nous rejoindra pour son billet politique. Il se demande ce matin comment faire campagne sans militants. Voilà donc un arrêt de la Cour de cassation à haut risque pour l'État français, pour ses finances et pour sa réputation. En plein débat sur la réforme des retraites, on attend aujourd'hui un arrêt sur le cas d'un auto-entrepreneur guadeloupéen dont la caisse de retraite a systématiquement minoré les droits. Et cette caisse de retraite, la CIPAV, a fait de même pour tous ses affiliés auto-entrepreneurs, soit près de 400 000 personnes. Si la Cour de cassation rejette le pouvoir formé par la CIPAV, alors l'État pourrait se voir facturer une note assez salée entre 1 et 5 milliards d'euros pour défaut de tutelle. C'est une information France Culture d'Anne-Laure Chouin qui nous explique l'affaire bien encombrante pour le gouvernement, mais surtout pour les auto-entrepreneurs.
Ils s'en sont aperçus au moment de calculer leurs droits à la retraite, une partie des 400 000 auto-entrepreneurs qui ne sont ni commerçants ni artisans et qui dépendent donc de la CIPAV, se sont rendus compte que leurs droits avaient été sévèrement minorés. Il faut savoir que le régime de l'auto-entrepreneuriat permet à ceux qui l'ont choisi de cotiser très peu tout en percevant les mêmes droits à la retraite que les autres indépendants. Sauf que la CIPAV n'a calculé cette retraite que sur la base de ses cotisations, soit en moyenne 4 fois moins que ce qu'ils auraient dû percevoir. La justice a donc considéré, en première instance et en appel, qu'il y avait inégalité de traitement par rapport aux autres indépendants. Si la cassation va dans le même sens, la CIPAV pourrait donc se retourner vers l'État et réclamer au minimum 1 milliard d'euros que l'État aurait dû verser pour compenser le déficit du régime induit par ses cotisations minimales. Or, il ne l'a jamais fait. Pire, la direction de la Sécurité sociale, 2 jours avant l'audience, a envoyé une lettre en demandant à la Cour de cassation de ne pas accéder à la requête du plaignant auto-entrepreneur, son avocat Maître Dimitri Pinson.
C'est clairement une immixtion du pouvoir exécutif dans une affaire judiciaire individuelle. Après, ça montre justement la portée générale que peut avoir la décision sur les 400 000 auto-entrepreneurs concernés. L'État dit « attention, vous allez créer un risque financier pour nous, vous allez nous forcer finalement à financer ce régime de sécurité sociale, ce qui était prévu dans la loi, et donc vous allez nous forcer à payer plusieurs milliards ».
L'État n'a pas joué son rôle de tutelle, estime Maître Pinson, qui voit là une tentative à peine dissimulée de faire des économies sur le dos des auto-entrepreneurs, un régime que l'État a pourtant tout fait pour favoriser.
L'arrêt de la Cour de cassation sera rendu cet après-midi. Informations et détails à retrouver dès maintenant sur notre site franceculture.fr. Au chapitre des retraites encore, et à la veille de la présentation de la réforme en Conseil des ministres, réforme toujours décriée, la CGT poursuit ses actions ciblées. Hier, 2 agents d'Enedis ont été placés en garde à vue en Dordogne après une coupure de courant dans une entreprise du département. Et à partir de ce soir, 3 centres d'incinération des déchets en Ile-de-France pourraient être mis à l'arrêt jusqu'à lundi sur décision d'une assemblée générale de la CGT Énergie. Le gouvernement promet des sanctions. Il avait forcément en tête la colère de Jacques Chirac au même endroit en 96. 24 ans plus tard, Emmanuel Macron s'énerve, lui aussi, contre des soldats israéliens à Jérusalem. Le chef de l'État leur a reproché d'être entré dans une église Sainte-Anne, un territoire français, alors qu'ils n'en avaient pas le droit. Un peu plus tôt, Emmanuel Macron avait défendu son combat de chaque jour, a-t-il dit, contre l'antisémitisme. Antisémitisme qui peut s'apparenter, dit-il encore, à la négation de l'existence d'Israël comme État. Il est en visite en Israël en ce moment. C'était le premier jour de sa visite d'ailleurs hier au Proche-Orient, d'Israël au territoire palestinien. Emmanuel Macron a enchaîné les rencontres diplomatiques avant une journée de commémoration ce jeudi, 75 ans après la libération de camps nazis. Au total, aujourd'hui, une quarantaine de dirigeants vont se réunir à Jérusalem à la mi-journée au mémorial de la Shoah Yad Vashem. Visite guidée avec notre correspondant Frédéric Mettezo.
L'entrée du musée nous plonge dans un monde disparu, avec des films en noir et blanc de la vie au Shtetl, les quartiers juifs d'Europe de l'Est d'avant la Shoah. Puis, l'arrivée des nazis au pouvoir, les rassemblements de Nuremberg, les lois anti-juives, la propagande et les autodafés. Car on a brûlé des livres avant de brûler des êtres humains, explique Liz Elsby. La guide ajoute qu'il faut comprendre le processus qui a mené à l'Holocauste.
Si je raconte juste des histoires sans l'histoire avec un grand H, on ne comprend pas le contexte. Un dirigeant a conduit à la Shoah, c'est une série de choix et d'événements qu'il faut connaître. Si je parle de cela sans lui donner un visage humain, ça devient académique. Il faut donc humaniser car c'est arrivé à des humains et ça a été commis par des humains.
Les humains, ce sont d'innombrables photos de victimes avant leur déportation, à leur descente du train, des cadavres et des survivants d'une maigreur effrayante. La visite s'achève par le mémorial des enfants, une immense salle noire et quelques bougies qui se reflètent à l'infini dans des miroirs, avec en fond sonore les noms, âges et nationalités des enfants morts identifiés. En hébreu, Yad Vashem se traduit par « un mémorial des noms ».
C'était Frédéric Mettezo qui suivra donc pour nous cette journée de commémoration, de souvenirs. Frédéric qui a aussi interrogé l'historien et diplomate Eli Barnavi. Il se demande si le génocide juif est consubstantiel à la création de l'État d'Israël ou s'il en constitue un ciment tardif. Entretien à retrouver sur franceculture.fr. La ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, est confinée en ce moment. Fin des transports en commun depuis hier soir. Les habitants sont priés de rester chez eux. C'est vraisemblablement de cette ville qu'est partie l'épidémie due à un coronavirus encore méconnu. 17 personnes sont mortes en Chine ces derniers jours. Le nombre de cas infectés dépasse maintenant les 500, essentiellement à Wuhan. Et face à l'inquiétude grandissante, le comité d'urgence de l'OMS s'est réuni hier, mais l'Organisation mondiale de la santé préfère pour le moment rester prudente. Elle n'a pas encore statué, Jérémy Lanche.
La décision de considérer la situation comme urgence sanitaire de portée mondiale ne doit pas être prise à la légère, a dit le patron de l'OMS. Le groupe de 15 experts est divisé, d'autant que la situation évolue très rapidement sur le terrain, avec un bilan en hausse et des questions en suspens, notamment sur le taux de mortalité des personnes contaminées. Le français Didier Houssin préside le comité d'urgence de l'OMS.
La question de la mortalité est clairement l'une des questions que nous nous posons. Si on compare avec les autres épidémies de coronavirus, celle du SRAS en 2003 ou plus récemment celle du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le MERS, le nombre de morts semblait être beaucoup plus important dans ces deux épidémies. Mais c'est l'une des informations qui nous manque aujourd'hui à propos de ce nouveau coronavirus.
Beaucoup reste en effet à découvrir sur ce nouveau coronavirus. 2019-nCoV, c'est son nom pour le moment. On ne connaît pas l'ampleur de la transmission entre humains, ni la proportion de malades qui ont développé des symptômes respiratoires aigus. Question également sur la chronologie des cas détectés par Pékin. Ont-ils été contaminés il y a quelques jours ou plusieurs semaines ? Le patron de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, a néanmoins salué la décision de la Chine de suspendre les transports dans la ville de Wuhan, d'où semble partie la maladie, estimant que cela minimisait les chances de propagation du virus.
En Australie, c'est le feu qu'il faut contenir et qui, en 5 mois, a tué 32 personnes. Hier soir, 3 secouristes sont morts dans le crash d'un bombardier d'eau. Ces engins multiplient les allers-retours dans le centre et le sud-est du pays. À Canberra, d'ailleurs, la capitale, les autorités ont ordonné hier la fermeture de l'aéroport pour réserver les pistes aux avions bombardiers d'eau.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. La vitesse maximale sur les routes secondaires en France peut-elle réellement repasser de 80 à 90 km/h?
Le gouvernement français avait fait cette concession au département dans la loi d'orientation sur les mobilités il y a un mois. De quoi apaiser un temps plusieurs conseils départementaux. Mais voilà qu'une circulaire vient durcir les règles. Les collectivités locales se retrouvent confrontées à une série de recommandations qui les dissuadent de repasser à 90 km/h, Pierre Neveu.
En début de semaine, les préfets ont reçu une circulaire du ministère de l'Intérieur encadrant les modalités d'application de la loi d'orientation sur les mobilités. Loi qui permet aux présidents de conseils départementaux de déroger localement à la limitation de vitesse sur les routes secondaires après avis d'experts. Mais pour que l'augmentation de la vitesse à 90 soit validée, encore faut-il que la décision départementale reçoive l'approbation du préfet. Prérogative que ne comprennent pas les élus, à l'image de Vincent Descoeurs, député LR du Cantal.
C'est édifiant, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que c'est quelque part un recul par rapport au travail parlementaire. Le gouvernement a fait des concessions à contre-cœur, inscrites dans la loi, et puis par une circulaire, voilà, il entend compliquer la vie des élus, et quelque part presque rendre inapplicables les dispositions votées par les parlementaires, ce qui est un comble.
Dans le département de la Haute-Marne, les automobilistes peuvent à nouveau rouler à 90 km/h sur 476 km de routes secondaires. Le président du département, Nicolas Lacroix, explique avoir respecté la loi et les préconisations des experts. Mais ce qu'il n'admet pas, c'est qu'entre le discours d'apaisement du chef de l'État il y a un an lors du grand débat national et la mise en place du décret, tout est fait selon lui pour que la responsabilité des élus soit engagé.
Vous avez d'un côté l'État qui sauve des vies, et puis de l'autre côté des présidents de département qui, eux, vont créer des morts. C'est un peu schématiquement ce qu'on nous dit et ce qu'on entend régulièrement depuis quelques jours.
En juillet 2018, l'abaissement de la limitation de vitesse à 80 km/h avait déclenché une hostilité des automobilistes et des élus. Édouard Philippe affichait alors toute sa détermination au nom de la sécurité routière.
Ce projet de loi-là fait aussi des allers-retours en ce moment sur fond de contestation. Le texte sur la bioéthique est examiné au Sénat. L'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes a été validée hier soir par les sénateurs. En revanche, ils demandent à ce que la PMA ne soit remboursée que si elle est fondée sur un critère médical. Pas un jour ne passe sans une nouvelle proposition pour la ville de Paris. À 2 mois des municipales, la campagne bat son plein dans la capitale. Hier, c'est la candidate Les Républicains, Rachida Dati, qui présentait son projet et ses candidats. Chacun y va de ses arguments et de ses critiques, souvent pour déboulonner le parti socialiste qui tient la ville depuis près de 20 ans. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour.
La maire sortante Anne Hidalgo fait pourtant encore figure de favorite, Stéphane.
Oui, Anne Hidalgo, qui à peine entrée en campagne la semaine dernière, grimpe dans les sondages selon une toute dernière enquête. Elle recueille 25% des intentions de vote. Face à elle, les deux candidats En Marche, l'officiel et le dissident Benjamin Griveaux et Cédric Villani, continuent de se neutraliser respectivement à 15 et 13%. Signe inquiétant même pour le marcheur officiel Benjamin Griveaux. Il perd des points malgré le soutien de l'ex-candidat de centre-droit Pierre-Yves Bournazel, crédité jusqu'ici de 5%. La candidate de la droite républicaine Rachida Dati, en revanche, semble enclencher une dynamique positive à 19%, soit 2 points de plus que lors d'une précédente enquête en décembre. L'écologiste David Belliard ne baisse pas mais ne décolle pas non plus. Il est aux alentours de 14%. Daniel Simonet pour la France Insoumise et Serge Federbuch, qu'ont soutenu par le Rassemblement National. Serge Federbuch font jeu égal chacun à 5%. Les deux derniers, Gaspard Ganzer et le forain Marcel Campion, sont eux dans la marge d'erreur à 1%. Notez qu'à ce stade, rien n'est complètement figé. Tous ces candidats ont jusqu'au 27 février pour officialiser leur candidature et déposer leur liste en préfecture.
Et il faut rappeler, Stéphane, la spécificité parisienne. On ne vote pas directement pour un candidat, on vote d'abord pour un maire d'arrondissement.
Oui, avec un changement pour ce scrutin cette année, on passe de 20 arrondissements à 17. Les 4 arrondissements du centre parisien, 1, 2, 3, 4, fusionnent pour n'en former plus qu'un. Dans chaque arrondissement, on élit un maire et parallèlement des conseillers de Paris qui, eux, se retrouvent à l'hôtel de ville pour élire le maire de la capitale. Or, certains arrondissements pèsent plus que d'autres en la matière et sont susceptibles de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. On parle d'arrondissement clé. Cette spécificité parisienne fait qu'un candidat peut être minoritaire en nombre de voix et malgré tout être élu maire de Paris. C'est précisément ce qui était arrivé à Bertrand Delanoë en 2001, qui avait recueilli moins de 50% des voix mais qui avait remporté les arrondissements clés et bénéficié des divisions de la droite.
Merci beaucoup Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Jeudi prochain, si antenne il y a, nous irons à Marseille, ici même. Si antenne il y a, car la grève se poursuit épisodiquement à Radio France. 52e jour de grève ce jeudi contre un plan de suppression de postes. Et le ministre de la Culture l'affirme ce matin dans les colonnes de Libération. Chacun doit faire des efforts, dit-il succinctement. Franck Riester s'exprime pour la première fois en longueur. Il avait annulé ses vœux en début de semaine face à la contestation sociale plus générale dans le monde de la culture en ce moment. C'est dans ce contexte qu'un sondage du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, vient soulager les professionnels de la radio. Oui, y lit-on, la radio reste un média d'avenir. Elle dispose toujours de sérieux atouts face aux autres médias, Maxime Tellier.
Près de trois quarts des Français écoutent encore la radio au moins trois fois par semaine, d'après ce sondage. La radio étant indétrônable le matin pour deux tiers des sondés, c'est le seul média associé aussi clairement à un moment de la journée. On écoute la radio pour découvrir des musiques, des artistes, c'est donc un média prescripteur. On l'écoute aussi pour s'informer et c'est un média qui inspire confiance pour 44% des répondants, loin devant la télé 30% et Internet 26%. La radio demeure donc un média de masse puissant d'après l'Institut CSA et son président Yves Delfrat, qui relativise même la baisse globale du nombre d'auditeurs mesurée par Médiamétrie.
Pour moi, il n'y a pas de baisse des audiences, il y a une baisse de la mesure des audiences qu'il convient de revisiter pour la mettre au niveau de la consommation du média par les Français, qui est autant consommé sur Internet aujourd'hui qu'à travers les devices historiques.
Donc c'est un problème de méthode.
C'est un problème de méthodologie, absolument.
Et c'est un avis partagé par beaucoup de responsables au sein des radios, malgré les mesures de Médiamétrie qui montrent une baisse continue. 81% des Français écoutaient la radio en 2015 contre 77% aujourd'hui. Médiamétrie prépare d'ailleurs un nouveau mode de calcul qui fonctionnera avec un audimètre, un boîtier qui mesure en temps réel les écoutes. Mais ce nouveau système fait peur aussi, car les audiences déterminent directement les budgets pubs, notamment pour les radios privées. Et ces budgets sont en baisse constante depuis 2011.
Maxime Tellier pour France Culture. Deux fleuves ont débordé hier dans le sud de la France à cause des fortes pluies d'hier. L'Aude et les Pyrénées-Orientales sont toujours en vigilance rouge, mais il n'y a pas de blessés à l'heure actuelle. Ailleurs, le ciel aujourd'hui oscillera entre nuages et éclaircies avec moins 2 degrés ce matin à Strasbourg, 0 à Lyon, 1 à Paris et Rennes, 9 à Bordeaux, 14 à Marseille.
Eh bien, merci beaucoup, Clara Lecoq-Réal.